Troisième partie. Chapitre 41. Samuel. J'ai beaucoup appris de l'article du Guardian, mais j'ai aussi le sentiment de ne rien avoir appris du tout. Il a été écrit en 2015 par le journaliste Miller Rowe, dont j'ai trouvé les coordonnées sur Google en 5 minutes. Cependant, l'homme ne répond pas aux appels ni à ses mails, et je n'ai pas d'adresse. Donc, en attendant qu'il revienne vers moi, je pars en virée à la campagne avec Donald pour aller discuter avec Libby Jones. Elle habite à la sortie de Saint-Alban, dans une jolie maison mitoyenne d'époque géorgienne, selon moi, avec des colonnes de chaque côté de la porte, un perron beige arrondi et un rideau de lierre recouvrant la façade. Les notaires de Pimlico m'ont informé que la demeure de Cheyne Walk a été vendue pour plus de 7 millions de livres. Mais ce cottage ne doit pas coûter la moitié du quart de cette somme. Je me demande ce qu'elle a fait du reste. Je ne peux pas m'empêcher de songer à la myriade de choses que je ferais avec ce type de pécule. J'ai 36 ans, je suis célibataire et je n'ai pas d'enfant. J'en dépenserai peut-être une partie pour acheter un appartement à Florence, sur la Piazza della Signora, avec vue sur le palais des offices et quelques tableaux pour le décorer. J'en donnerai une bonne partie à ma mère, bien sûr, pour qu'elle s'offre une maison sans fuite d'eau, qui ne craque pas de partout, et des appareils qui s'occupent de tout à sa place. Puis j'investirai dans un fonds de pension, parce que je n'ai aucune intention de vivre comme elle, avec la location modique que la banque qui l'a employée pendant 35 ans considère comme une retraite décente. Enfin, je rembourserai mon prêt, et fêterai ça avec un champagne plus cher que mes mensualités. C'est avec ces pensées en tête que je sors de la voiture et suis Donald jusqu'à la porte de la maison modeste, quoique charmante, où réside Libby Jones. Je suis surpris de découvrir non pas une sonnette, mais 4, et comprends que la propriété est divisée en plusieurs lots. Libby Jones, l'héritière multimillionnaire, vit dans un petit appartement. Je sonne et un instant plus tard, une femme apparaît sur le seuil. Elle a bien plus de 26 ans, un carré sombre coupé aux épaules, de grosses lunettes noires, un visage carré, et porte ce qui semble être un bleu de travail teint en vert, qui pourrait bien annoncer une nouvelle tendance. Ça ne peut pas être elle. Bonjour, je suis l'inspecteur Owuzu, et voici le lieutenant Muir. Nous cherchons Libby Jones.
Mazette, tout va bien?
Oui, à qui avons-nous l'honneur, madame?
Dido Rhodes, c'est à quel sujet?
À ce moment-là, un petit chien apparaît derrière elle. C'est le genre de chien qui me plaît bien plus, de ceux qu'on peut porter et maîtriser, qui ne peuvent pas sauter et vous lécher le visage. Il grogne doucement comme s'il essayait de décider s'il devait aboyer ou non, puis s'arrête et s'assied au pied de Dido. Nous voudrions parler à Madame Jones. Elle est chez elle. Dido Rhodes attrape le chien dans ses bras. Je le regarde, il me regarde. L'animal semble intelligent. Dans ses yeux, je lis une histoire. Sa vie a été mouvementée, et s'il pouvait parler, je crois qu'il me dirait tout ce que j'ai besoin de savoir.
Ah oui, un instant. Libs, Libby, il y a des policiers qui veulent te voir.
Elle ne me quitte pas du regard en appelant son ami, comme si j'allais lui jouer un mauvais tour si elle détournait l'attention. Libby Jones apparaît. Elle est petite, apprêtée, blonde, très propre sur elle. Elle porte un jean slim gris avec un débardeur olive et des claquettes vertes. Elle me dévisage.
Oui.
Et je nous présente à nouveau.
D'accord. Est-ce que vous voulez entrer?
Le chien se remet à grogner quand nous franchissons le seuil. Je lui souris pour l'amadouer, mais ça n'a pas l'air de fonctionner.
Pardon, c'est le chien de ma mère. Je le garde en ce moment. Il est très protecteur.
C'est son travail, réponds-je en acquiesçant. Les chiens ont besoin d'une tâche pour être heureux, et s'ils ne savent pas ce que c'est, ils s'en inventent une. Libby Jones sourit gentiment, puis nous invite à la suivre dans un petit appartement au rez-de-chaussée. C'est très joli, à l'image de sa propriétaire, avec des étagères et des meubles bien rangés, des tons neutres. Dans le salon, nous nous asseyons sur un canapé crème, et Dido nous apporte des verres d'eau. Bien, Madame Jones, nous avons eu vos coordonnées par l'office notarial Rudd & Royal de Londres. Ils nous ont appris que vous aviez hérité d'une propriété située au 16 Cheyne Walk il y a environ un an.
C'est exact.
Vous l'avez vendue récemment?
Oui, il y a une dizaine de jours.
À Oliver et Kate Wolfsonberger?
Tout à fait.
Si j'ai bien compris, cette maison appartenait à vos parents. Libby déglutit, puis s'éclaircit la voix. Je devine qu'elle s'apprête à mentir.
Mes parents biologiques, oui.
Vous ne les avez jamais connus?
Non, ils sont morts quand j'étais bébé. Est-ce que vous pourriez me dire ce qui se passe, s'il vous plaît?
Je suis sur une corde tendue au-dessus d'un gouffre. Libby Jones m'a déjà menti une fois, et je ne veux pas la pousser à récidiver. J'ai besoin de réponses honnêtes de sa part. Et nous menons une enquête sur un possible homicide survenu à la fin des années 80, ou au début des années 90, celui d'une jeune femme nommée Birdie Dunlop Evers. Son regard s'assombrit, mais elle secoue la tête comme si elle n'avait jamais entendu ce nom. Elle vivait sans doute au 16 Cheyne Walk au moment de sa mort, reprends-je. J'ai lu un article du Guardian sur l'histoire de la maison, le sort tragique de vos parents, et la façon dont on vous a retrouvé dans un berceau à l'étage toute seule. D'autres gens vivaient dans la maison, des adolescents, deux, trois ou quatre selon les sources. J'ai aussi lu qu'il n'y avait aucun enfant. Un livreur pensait qu'il s'agissait d'un couvent. Les témoignages sont tout à fait contradictoires. Vous connaissez cet article?
Oui, bien sûr, oui. Me renseigner, c'est l'une des premières choses que j'ai faites quand j'ai appris qu'on m'avait légué cette maison. Avant ça, je n'avais jamais entendu parler de ma famille biologique. C'était une lecture perturbante.
En effet, tant de questions, si peu de réponses. En lisant ces lignes, il m'a semblé possible qu'une jeune femme se fasse avaler par cette maison à l'histoire complexe et tragique sans que personne ne s'en rende compte, et y disparaisse dans tous les sens du terme. Ce n'est pas une question, mais une affirmation. Libby Jones ne peut ni la confirmer ni la réfuter. Je la laisse en suspens un moment pour qu'elle infuse le silence ambiant. Libby Jones se redresse et étire ses bras et ses jambes.
Je n'en sais vraiment rien. Rien de plus que ce qui était rapporté dans cet article, c'est tout.
Vous avez vu la maison, n'est-ce pas, avant de la vendre?
Ah oui, bien sûr. J'y suis allé plusieurs fois après avoir hérité, pour explorer, avoir une meilleure idée des lieux.
Et vous n'avez jamais rien remarqué, rien découvert qui aurait pu vous éclairer sur ce qui s'est passé la nuit où vos parents se sont donné la mort?
Non, désolé.
En disant cela, elle porte sa main à sa gorge. Mince, elle ment encore. Mais cette fois au moins, c'est un mensonge utile, car il m'incite à croire qu'elle a effectivement trouvé quelque chose qui ne figurait pas dans l'article, qu'elle sait des choses qu'elle ne veut pas partager avec moi. Et si elle fait ce choix, c'est certainement pour se protéger, ou pour protéger quelqu'un d'autre. Qui pourrait-elle vouloir protéger, à part une personne liée à l'histoire de cette maison? Le frère, peut-être, ou la sœur. Les autres enfants Lamb s'appelaient Henry et Lucy, selon l'article. Est-il possible qu'ils aient eu connaissance de la date à laquelle l'héritage deviendrait accessible et qu'ils aient retrouvé Libby pour réclamer leur dû? Après tout, ils étaient aussi mentionnés dans le testament. Mais ni l'un ni l'autre ne s'était manifesté à leur 25e anniversaire. Peut-être avait-il attendu qu'une personne innocente le fasse pour eux. Quelqu'un qui menait une existence dans les clous, contrairement à eux. Et s'il devait vivre hors la loi, alors pourquoi? Peut-être parce que l'un d'eux était impliqué, d'une façon ou d'une autre, dans la mort de Birdie Dunlop Evers. Mais pourquoi? Il me faut trouver la réponse à cette énigme. Pourquoi est-ce qu'un, deux, trois ou quatre adolescents voudraient tuer une femme de 30 ans? Je suis allé à Cheyne Walk hier, lui apprends-je. Monsieur Wolfsonberger m'a laissé visiter. C'est une maison assez particulière.
Effrayante, vous voulez dire?
Oui, si l'on veut. Un peu. C'est difficile d'imaginer une famille normale vivre là-dedans.
Ce n'était peut-être pas une famille normale, me corrige-t-elle en haussant les épaules. Les familles normales ne meurent pas dans des suicides collectifs, généralement.
Je hoche la tête. Elle a raison.
J'ai eu de la chance,
reprend-elle,
d'avoir été extraite de cet environnement et d'être élevée dans une bonne famille.
Et maintenant, vous avez de la chance, car vous avez hérité de beaucoup d'argent. Elle sourit. Oui, je vois que cet argent l'a rendue heureuse. Et je me demande encore une fois ce qu'elle a bien pu en faire. Si le frère et la sœur l'avaient retrouvée pour qu'elle leur donne leur part, l'avaient menacée ou lui avaient fait du chantage, elle ne serait certainement pas aussi détendue à ce sujet. Mais elle est à l'aise. Alors je me dis qu'elle a peut-être partagé l'argent, équitablement, qu'elle se sent en paix avec cette somme tombée du ciel parce qu'elle s'est comportée de façon honnête et juste. Vous allez acheter une plus grande propriété maintenant.
Oui, enfin, je vais garder l'appartement. Je vais le louer à bas prix à un jeune couple ou à une personne seule qui a des difficultés. Je n'aurai pas besoin de ce revenu, mais je sais à quel point il est difficile de s'en sortir quand on démarre. Tout est tellement cher. Je cherche une maison un peu plus loin, en pleine campagne, avec du terrain, un endroit où je pourrais installer un atelier de décoration d'intérieur, avec une grange peut-être, ou une annexe, quelque chose comme ça.
Vous continuerez à travailler?
C'est le début, et je n'ai pas encore tout planifié. Mais mon ami Dido est la propriétaire de la franchise qui m'employait,
explique-t-elle en esquissant un geste vers la porte.
Elle va me donner un coup de main.
Dido attend de l'autre côté de la porte du salon. Elle se pense invisible, mais ce n'est pas le cas. J'entends sa respiration, le bruit de ses pieds nus sur le parquet et un raclement de gorge. Je me demande ce qu'elle sait du mystère dans lequel trempe son ami. Peut-être autant que le chien qui ne grogne plus, mais ne me quitte pas du regard. Ça semble être un projet idéal et une utilisation raisonnable de votre héritage. Mais le reste?
Le reste?
Répète-t-elle d'un air décontenancé. Oui, une maison à la campagne, une grange, une entreprise, c'est bien. Mais il vous restera encore beaucoup.
Pas vraiment. Déjà, je vais donner de l'argent à ma mère, bien sûr, et peut-être à des associations, ou faire des investissements, ce genre de choses.
Je hoche la tête. Il faut que je trouve un moyen de consulter ses comptes bancaires. Il me faut un mandat. Je m'en occuperai plus tard. Vous pensez que votre frère ou votre sœur pourrait venir vous trouver, maintenant que la maison est vendue? L'information est sur Internet, à ce que je vois. Bientôt, le registre foncier rendra public le prix de vente, et le monde entier sera au courant. Votre frère, votre sœur, Henry et Lucy, que feriez-vous s'ils vous contactaient? Dido se met à tousser de l'autre côté de la porte du salon.
C'est impossible.
Je ne réponds pas, mais hausse les sourcils.
Ils sont sûrement morts.
Je fais mine de la croire, mais c'est difficile. Morts? Comment en êtes-vous venu à une conclusion si dramatique?
C'est la seule possibilité, non? Vous l'avez dit vous-même. Il y avait des adolescents dans la maison. Ils ont disparu du jour au lendemain.
Ah oui, c'est ce qu'on pourrait penser. Mais c'est beaucoup plus simple de cacher une personne vivante qu'un corps. Je vous assure, un changement d'identité, une transformation physique, un autre pays, c'est très facile. Ils ne sont sans doute pas morts, Madame Jones. En vérité, ils sont très certainement vivants. Avez-vous déjà essayé de les retrouver? Elle secoue vivement la tête.
Non, pas du tout.
Vous aimeriez le faire?
Non.
Vous n'êtes pas curieuse de savoir ce qu'ils sont devenus? Vous ne voulez pas les voir dans votre vie?
J'ai toujours pensé qu'ils étaient morts. Je ne me suis jamais dit que...
Je soupire. Cette conversation ne mène nulle part. Quand je me lève, le chien se remet à grogner, et en le regardant, je me rends compte que j'ai encore une question à poser. C'est le chien de votre mère, c'est ça? Elle hoche le menton. De votre mère adoptive?
Ma...
Son visage perd toutes ses couleurs.
« Oui, se reprend-elle. Oui, c'est le chien de ma mère adoptive. »«
Et où habite-t-elle ?»«
En Espagne. Oui, enfin, une partie de l'année. Elle a un appartement là-bas, mais elle revient parfois. On partage le chien, si je puis dire. »
Libby Jones parle à toute vitesse. Elle ment. Ou elle couvre un mensonge. Je repense à la photo de ses parents biologiques dans l'article du Guardian. La mère brune, d'origine turque, majestueuse, le père trapu au visage carré. Elle ne ressemble ni à l'un ni à l'autre, selon moi. Je quitte Libby Jones avec plus de questions qu'à mon arrivée.